Vous écoutez France Culture.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous.
Hey, you know what?
Suite ce mardi de la seconde semaine sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance, en partenariat avec Philosophie Magazine et son guide de survie au bac philo. L'épreuve approche, chers candidats, l'épreuve est imminente. Si vous êtes anxieux, tout va bien. Si vous n'êtes pas anxieux, alors inquiétez-vous, c'est le moment. Cinq professeurs de terminale se relaient à ce micro toute la semaine, du lundi au vendredi, de 17h à 17h50, pour faciliter la tâche du candidat bachelier, lui prodiguer conseils méthodologiques et suggestions de plans, pour s'infliger en un mot le supplice qui attend ses élèves et leur montrer au passage que la philosophie apprend à être en désaccord sans être en colère. Hier, Charles Pépin est venu se demander s'il fallait vouloir trouver un sens à toute chose. Demain, Philippe Danino, qui enseigne au lycée Buffon, se demandera si l'on peut penser sans préjugés. Mais aujourd'hui, mardi, c'est Nicolas Franck, qui enseigne au lycée de la Folie Saint-James de Neuilly-sur-Seine, qui va se demander pour vous et sous l'œil attentif d'une vingtaine de ses élèves si une conduite désintéressée est possible. Bonjour Nicolas Franck.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance et bienvenue d'ailleurs à ceux de vos élèves qui vous observent, qui vous scrutent, j'allais dire qui vous jugent pour une fois. Nicolas Franck, une conduite désintéressée est-elle possible? C'est le sujet qu'on a retenu. Voilà, on est dans la situation d'un candidat le jour de l'épreuve et qui, face à sa page blanche, se retrouve avec un tel sujet. Comment réagit-il? Que faire?
La première chose à éviter, c'est évidemment de répondre immédiatement à la question posée, mais il faut au contraire chercher les raisons pour lesquelles on va avoir du mal à y répondre. Ça s'appelle construire un problème. Et pour ce faire, il faut évidemment analyser le sujet et essayer de comprendre ce qu'est une conduite désintéressée. Alors évidemment, la chose n'est pas très difficile puisque ça fait partie des sujets dont on peut considérer qu'ils sont assez faciles. La chose n'est pas très difficile puisque tout le monde sait très bien ce que c'est qu'une conduite désintéressée. Tout le monde en a des représentations simples et intuitives, si je puis dire. Une conduite désintéressée, c'est la conduite généralement morale, enfin essentiellement morale, dans laquelle on va s'intéresser à autrui pour rien. La conduite désintéressée, c'est celle dans laquelle on va négliger ses intérêts, c'est-à-dire négliger ce qui compte, ce qui importe, ce qui pour nous est sans doute essentiel, une conduite qui ne nous rapportera rien.
En somme, instaurer avec autrui un rapport qui relève du don plus que de l'échange.
Voilà.
En somme, du don de soi plus que du calcul de son intérêt bien compris dans le...
Du don de soi, ou du don de... Enfin, avec tout le problème qui va se poser ensuite de savoir ce qu'est le soi, quel est le soi que l'on donne. Mais enfin, nous verrons sans doute cela après.
Alors donc, on est face à ce sujet, hein, le premier réflexe, c'est donc éventuellement de sérier, ou en tout cas de se représenter, ce qui est assez facile à faire, des exemples de conduite désintéressée.
Oui, alors les exemples sont multiples et on peut, surtout si on est en terminale L, les tirer de ses connaissances littéraires et de ses lectures. On peut aussi les tirer de sa culture littéraire ou de sa culture philosophique. Le premier exemple possible, d'un point de vue strictement philosophique, serait celui de Thalès, que bien souvent les élèves connaissent ou rencontrent à un moment, et l'analyse qu'en propose Platon dans le Théétète. Thalès qui est sans doute tombé dans un puits parce qu'il regardait trop les étoiles ou le ciel et qui se voit être, et dont une servante Thrace qui passe par là, se moque fort. Bon, Thalès est désintéressé, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse n'est pas ce qui intéresse la servante. Et par conséquent, on peut retenir de cet exemple-là l'idée que la recherche scientifique, ou si bien la recherche philosophique, avec ce qu'elle contient de gratuité, est inutile, c'est-à-dire désintéressée, ne porte sur rien.
On pourrait d'ailleurs donner une interprétation tout à fait banale et ordinaire de la figure, à partir de Thalès, finalement, d'un homme qui dirait de lui-même qu'il a trop d'ambition pour être un ambitieux. Il a plus d'ambition que cela.
Oui.
C'est à peu près la même affaire.
C'est à peu près la même chose.
Mais gardons donc en tête cet exemple. Comment est-ce qu'on parvient, à partir d'un tel sujet, à construire la problématique dont on ne dira jamais assez quel est le point de départ et le fil conducteur d'une dissertation et également la question à laquelle
Alors,
il faut répondre.
On peut, à partir de cet exemple, ou bien d'un autre exemple qui porterait sur une question morale, par exemple, le début des Misérables, lorsque Hugo nous présente Monseigneur Myriel, celui qui va produire la révélation qui sera le véritable début de l'histoire, il le présente en acte, c'est-à-dire Monseigneur Myriel vient au secours d'un condamné à mort, passe une journée, une nuit avec lui, alors que personne parmi les curés qui devaient s'occuper de lui, l'aumônier de la prison non plus, personne donc ne se soucie de ce condamné à mort, et acte désintéressé, il passe une journée, une nuit avec lui, il l'accompagne jusqu'à l'échafaud, acte jugé sublime par le peuple de la ville de Digne, mais qui est taxé d'affection par les
notables,
les notables de la ville qui lui reprochent d'en faire trop. Et donc on voit bien comment, immédiatement, on peut soupçonner une conduite en apparence désintéressée de ne pas l'être. Et on peut toujours trouver, dans les conduites en apparence les plus désintéressées, des motifs de satisfaire un intérêt peut-être plus caché, un intérêt peut-être moins évident, mais un intérêt tout de même.
Oui, parce que j'allais vous dire, si on part d'exemples où les conduites nous semblent évidemment désintéressées, alors la réponse à la question est immédiate. Hein. Oui, c'est possible, puisque on a en tête. Mais si on décrypte ces conduites de manière à jeter un doute sur le désintéressement véritable de ces conduites, alors la question, cette fois-ci, s'impose et demande à être problématisée.
Voilà. Et donc, le problème va consister, parce qu'en même temps, on voit bien qu'il est impossible. Et on ne peut que donner raison à cette conduite de soupçon, enfin, à cette attitude de soupçon sur nos conduites, sur les conduites en apparence désintéressées, puisqu'on ne voit pas très bien pourquoi on s'engagerait dans une conduite désintéressée, puisqu'elle n'a aucun intérêt, et par conséquent, si on n'y trouve pas une satisfaction d'une façon ou d'une autre, cette conduite n'a pas de raison d'être. Donc on est là au cœur d'une véritable contradiction, et construire un problème, cela consiste à présenter la contradiction qui est sous-jacente à la question posée. On ne peut ni affirmer qu'une conduite est désintéressée, ni affirmer le contraire. On ne peut pas affirmer qu'une conduite est désintéressée parce qu'on soupçonne qu'elle est intéressée facilement. On ne peut pas affirmer qu'elle est désintéressée puisque... On constate trop bien qu'il y a des conduites désintéressées et par conséquent, on est pris là dans une contradiction dont on peut se donner comme tâche dans la dissertation de la lever.
En somme, un double doute ou un double soupçon pèse sur la question. Hein, une conduite désintéressée serait une conduite sans raison d'être. Existe-t-il une conduite sans raison d'être? Et puis, une conduite désintéressée ou le désintéressement d'une conduite est toujours suspect de spéculer, au fond, sur un intéressement supérieur.
Oui, quoique la conduite désintéressée ne soit pas tout à fait sans raison d'être, puisque précisément, on prend intérêt à quelque chose. Enfin, je veux dire, Monseigneur Myriel répond à un intérêt supérieur. Et justement, il faudrait se poser la question et la manière de la formuler de façon immédiatement paradoxale, en plus à quelque chose qui est intriguant pour le lecteur et dans une introduction, sera forcément bienvenue. On peut se poser la question de savoir si il peut y avoir un intérêt désintéressé.
Un intérêt désintéressé, c'est-à-dire en fait une ambition au-delà des ambitions. C'est la même affaire. Alors, s'il fallait formuler, Nicolas Franck, la problématique, c'est-à-dire la voir présente à l'esprit, peut-être même d'ailleurs sous les yeux, hein, conseil pratique à l'attention des élèves, hein, garder le plan sous les yeux, faites-le tenir peut-être sur une page, rédiger l'introduction et ayez la problématique constamment sous les yeux pour ne pas vous éloigner du sujet. Comment l'écririez-vous? Tout simplement.
Tout simplement, de cette façon-là. Y a-t-il un intérêt désintéressé ? Je dis cela parce que bien souvent, les élèves ont tendance à reformuler le sujet et à vouloir trouver derrière le sujet des présupposés qui sont quelquefois nécessaires. Je ne suis pas sûr que dans ce sujet, ce soit très utile. Des présupposés qui les conduisent à des hors-sujets. Et donc, se concentrer sur le sujet lui-même n'est pas forcément une mauvaise tactique.
Alors, donc, y a-t-il un intérêt désintéressé ? Est-il nécessaire ? Recommandez-vous, Nicolas Franck, dans l'introduction, à donner le plan en introduction, ou est-ce qu'on peut s'en tenir à la question que vous proposez ?
La logique de la dissertation, c'est une logique de découverte. C'est-à-dire qu'on construit progressivement son propos et on n'a pas programmé à l'avance le point où l'on va en arriver. Ce qu'on demande aux candidats le jour du baccalauréat, et c'est ce qui rend souvent cette épreuve difficile et quelquefois effrayante, c'est de penser en direct, si je puis dire, de penser réellement. Et le critère, la question que le candidat peut se poser à la fin, c'est de savoir est-ce que j'ai pensé à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Et donc, il y a une logique de découverte. Voilà. Alors, on peut évidemment proposer à la fin de l'introduction des questions auxquelles les parties vont peut-être successivement répondre, ce que nous ferons.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Nicolas Franck est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi, dans le cadre d'une semaine consacrée au bac philo, 5 dissertations que nous ferons donc toute cette semaine. Aujourd'hui, c'est la question de savoir si une conduite désintéressée est possible. Avec Nicolas Franck, jusqu'ici, nous nous en sommes tenus à l'introduction, à la construction de la problématique. Problématique dont, je suis dans vos paroles, vous avez dit, Nicolas Franck, qu'elle tenait en peu de mots. Y a-t-il un intérêt désintéressé? Alors allons-y, y a-t-il un intérêt désintéressé? Comment construire à partir de cette question un plan qui soit susceptible éventuellement d'y répondre?
Alors je propose dans une première partie de partir du plus simple, c'est-à-dire de ce qui est pour tous, je crois, le plus évident, ce qui est pour le peuple de Digne, par exemple, la chose la plus évidente, c'est qu'il y a des conduites désintéressées. Et de partir d'analyses d'exemples qui vont permettre de définir ce qu'est une conduite désintéressée, ce qui nous permettra ensuite, dans cette première partie toujours, de nous interroger sur les conditions de possibilité de cette conduite désintéressée.
Un point sur les exemples, le traitement des exemples, l'utilisation des exemples dans une dissertation n'est pas cosmétique, c'est pas du rouge à lèvres, les exemples.
Non.
Les exemples, c'est le fond de l'affaire, si j'ose dire. C'est ce dont l'analyse doit guider l'argumentation.
C'est ce dont l'analyse doit guider l'argumentation. C'est ce dont il faut sans cesse se nourrir pour montrer que on comprend ce que l'on est en train de faire, pour le comprendre réellement. C'est pas seulement le montrer, c'est le comprendre réellement.
Alors, exemple.
Et alors, donc, le premier exemple qu'on peut prendre, celui que je vous proposais tout à l'heure, à savoir celui de Thalès. Je ne vais pas revenir dessus, mais qui permet de dégager peut-être un premier critère ou une première caractéristique du désintéressement, à savoir l'inutilité ou la gratuité. Ce que cherche Thalès, ce ne sont pas ce que cherche Thalès, ce ne sont pas des choses qui vont lui être utiles, ce sont des choses c'est le savoir qui ne sert à rien. Le ce qui ne sert à rien, un savoir qui est une pure contemplation, donc un savoir qui ne lui est utile à rien, et il le prouve lui-même, puisque en quelque sorte, pour réparer pour revenir sur les rires de la servante de Thrace, il utilise ses connaissances météorologiques pour prévoir. C'est Aristote qui raconte cela.
C'est ce que j'allais vous dire. Pardon, Nicolas Franck, mais c'est vrai que le Thalès dont vous parlez, c'est celui de Platon, celui du thé et tête. Mais c'est vrai, c'est celui donc la gueule dans le puits parce qu'il a la tête dans les étoiles.
Enfin, c'est pas sûr qu'il se casse la gueule. Il y a d'autres interprétations qui disent qu'il est descendu volontairement dans le puits pour mieux voir le ciel, puisque quand il y a l'obscurité autour, on voit mieux.
Le fait est que il ne voit pas ce qui est à ses pieds.
Il ne voit pas ce qui est à ses pieds.
Il converse avec les dieux, comme dit Socrate. Et puis, il y a le Thalès d'Aristote, celui qui fait fortune en spéculant sur les olives.
Oui, il achète tous les pressoirs pour ensuite les sous-louer, parce qu'il a prévu que la récolte d'olives serait particulièrement bonne la saison suivante, grâce à ses connaissances théoriquement désintéressées, soit. Mais il arrête. Je veux dire, il le fait une fois pour prouver qu'il est capable de le faire. Aristote utilise ça pour expliquer ce que c'est qu'un monopole. Et puis ensuite, il retourne à ses occupations en étant débarrassé des commentaires critiques qu'on peut faire autour de lui à propos de sa pauvreté.
Oui, c'est ça. En somme, il est parfaitement capable de faire comme tout le monde, seulement il a mieux à faire.
Mais il a mieux à faire. Bon. Et donc, il est devant quelque chose qui est plus intéressant que... Voilà. Mais ce quelque chose de plus intéressant que les occupations habituelles est quelque chose qui est gratuit et inutile, c'est le savoir. Et donc, il y a là une première caractéristique, sans doute, inutilité et gratuité, du désintéressement.
En même temps, il y a peut-être d'autres dimensions à ce désintéressement, notamment morale.
Oui, alors, deuxième exemple que l'on peut prendre, c'est celui du bon samaritain, qui dans l'évangile de Luc vient en aide à un homme à demi-mort au bord du chemin, devant qui un prêtre et un lévite étaient passés sans lui porter aucun secours. L'idée ici, je crois que pour bien comprendre cette situation, il faut la mettre en parallèle avec Antigone. Antigone qui veut porter secours à son frère pour l'enterrer, Créon ne veut pas au motif que c'est un ennemi de la cité. cité, mais l'attitude d'Antigone est elle-même très intéressée. Antigone veut lui porter secours parce que c'est son frère. Elle ne le ferait pas pour n'importe qui.
Enfin, lui porter secours...
Enfin, porter secours à sa dépouille,
bien porter sûr. Secours à sa dépouille,
porter
voilà,
secours,
c'est ça.
Mais, porter secours disons, à son âme.
Disons qu'Antigone obéit à d'autres lois que les strictes
oui.
lois politiques dont
Créon. Mais en même temps, on peut dire que l'attitude d'Antigone par rapport à celle du Samaritain a quelque chose de très intéressé, puisque il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de la dépouille de son frère. Et il y a un rapport de filia entre elle et son frère, de telle sorte qu'il y a une forme de souillure, pour elle-même aussi, hein, à laisser pourrir la dépouille à l'air libre. Tandis que le bon samaritain, il porte secours à quelqu'un qui lui est étranger, et dont on pourrait même se dire qu'il est un ennemi. C'est ainsi qu'on peut interpréter cette parabole.
C'est-à-dire que le bon samaritain, plus qu'Antigone, se débarrasse de lui-même.
De lui-même, et l'action désintéressée s'inscrit toujours sur un horizon d'universalité. Inutilité, universalité. C'est-à-dire qu'elle ne se porte pas seulement sur mes proches. Le prochain est ici à entendre, évidemment. Hein, l'amour du prochain est évidemment ici à entendre comme un prochain universel et non pas celui qui m'est le plus rapproché dans l'espace. Ce serait la deuxième caractéristique de...
Avec une dimension qu'on pourrait appeler peut-être sacrificielle.
Mais alors, la dimension sacrificielle, justement, je voulais l'ajouter avec un troisième exemple, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit très présente ici. Dimension sacrificielle, ça ne lui coûte pas grand-chose, finalement, bon, s'il donne de l'argent pour un hôtel, enfin bon, pour un logement. Avec le Charlot des Lumières de la Ville. Le vagabond Charlot dans les Lumières de la Ville tombe amoureux, même si au début la chose n'est pas très claire, tombe amoureux d'une jeune fleuriste aveugle qui le prend pour quelqu'un de très riche. Donc elle le débarrasse de son moi, beaucoup d'égards, hein, puisqu'elle est aveugle. Elle ne sait pas. Bon, pour l'aider à vivre et pour lui permettre de payer une opération très chère qui va lui permettre de voir enfin, il se livre à toutes sortes d'activités. Il est l'ami d'un millionnaire qu'il aime beaucoup quand il est ivre, mais qui veut le mettre hors de chez lui lorsqu'il est à jeun. Bref, il sacrifie à peu près tout de lui et de sa vie pour lui payer l'opération jusqu'à faire de la prison pour un cambriolage qu'il n'a pas commis, mais qui lui a permis d'obtenir néanmoins de l'argent.
Et il ne fait cela que par amour. C'est là, si j'ose dire, qu'il y a peut-être une objection à formuler, parce que
je ne suis pas sûr.
Il est épris de la jeune fleuriste.
Je ne suis pas sûr parce que la scène qui marque le mieux le désintéressement, enfin les deux scènes qui à mon sens marquent le mieux le désintéressement du film, la première notamment, il n'a pas le temps encore d'être amoureux et cela se voit. Il lui donne la pièce. Elle lui tend les fleurs parce qu'elle pense qu'il est riche. C'est sa dernière pièce. Il lui tend la pièce parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est un acte désintéressé. C'est un acte de pure gentillesse. C'est un don. Bon, et comme ensuite la personne riche avec laquelle Confond repart dans sa voiture, qui a un claquement de porte, elle croit qu'il est parti et il ne peut donc pas récupérer sa monnaie. C'était sa dernière pièce, il ne récupérera pas sa monnaie et il ne dit rien. Il n'est pas encore amoureux à ce moment-là. Il sera amoureux quelques secondes plus tard. Peut-être qu'il est amoureux grâce à cela, justement.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'ici, ça n'est pas l'intérêt, ça n'est pas le calcul, finalement, d'un homme qui, pour séduire la fleuriste, donnerait tout ce qu'il a, auquel cas on ne serait plus dans le désintéressement total. Mais c'est un homme dont l'amour naît à la faveur d'un geste irréfléchi et parfaitement désintéressé.
Oui.
Et alors donc, on a ces trois exemples, hein, Thalès, le bon samaritain, Antigone éventuellement, Charlot.
Alors de quoi on peut tirer? Donc c'est inutilité de la désintéressée, horizon d'universalité et oubli de soi, peut-être, qui peut aller jusqu'au sacrifice.
Inutilité, universalité, oubli de soi. Est-ce que ça veut dire, dans ces conditions, qu'on ne peut pas parler de désintéressement à propos de l'amitié? Nicolas Franck, dans la mesure où l'amitié, contrairement aux vertus de la charité, par exemple, n'est pas du tout universelle. Quand on a des amis et qu'on invite, par exemple, des gens à dîner chez soi et qu'on choisit ses amis, on les choisit à l'exclusion du reste de l'humanité. Ça n'est pas une vertu chrétienne.
Ça fait partie de l'ambiguïté de l'amitié. Justement, enfin, c'est le fait que l'on choisisse ses amis. Savoir si l'amitié est désintéressée. Alors, on pourrait dire, avec Aristote, elle est désintéressée parce que c'est une fin en soi, c'est un souverain bien, et on a des amis pour avoir des amis, et non pas en vue d'autre chose, et pour ne satisfaire aucun intérêt. Et puis, en même temps, on pourrait dire aussi bien qu'il y a dans l'amitié la satisfaction d'un intérêt dont on va voir que ce n'est pas un intérêt de rentabilité ou de profit, évidemment, mais à partir du moment où il y a élection, où il y a choix, et comme dans l'amour d'ailleurs, il y a en effet quelque chose qui fait qu'on ne sacrifie pas son moi, mais au contraire, on lui permet de prospérer. Mais peut-être va-t-on voir que justement, l'intérêt des intéressés, que ultimement on trouverait, ce serait un intérêt qui permettrait au moi de se fortifier et non pas de se sacrifier.
Qui aime Dieu ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour, c'est Spinoza qui oui. le dit. On pourrait ici trouver peut-être éventuellement une formule du désintéressement. Revenons-en au plan que vous proposez, Nicolas Franck. Inutilité, universalité, oubli de soi, quelques exemples sublimes, le bon samaritain, Thalès, Charlot, peut-être le plus beau d'entre eux. Comment justifier, au terme de ces exemples et de leurs analyses, comment justifier le passage tout simplement à une deuxième partie? Est-ce que cette deuxième partie doit s'opposer frontalement à la première?
Alors, avant de passer à une deuxième partie, on a ces exemples, et ces exemples, il faut les rapporter, il faut les analyser. Enfin, nous avons trouvé des caractéristiques de désintéressement, mais il faut les rapporter donc à ce qu'ils sont, à savoir la définition de l'acte moral. Puisque ces exemples-là renvoient nous permettent de dire que le désintéressement par excellence, c'est l'acte moral.
C'est là que vous vous servez de Kant.
Et c'est là qu'on peut se servir de Kant, en effet, en montrant, alors ça ce sont des choses que les élèves connaissent généralement très bien, surtout quand on est aussi proche du bac, une action ne peut être morale que si elle est désintéressée, que si elle est faite par devoir et non pas conformément au devoir, et que si le mobile de l'action est pur, c'est-à-dire si c'est la volonté elle-même, si le mobile est formel donc et non pas matériel.
Voilà, raison pour laquelle, par exemple, chez Kant, le bonheur est un idéal indigne de l'homme, puisque le bonheur relève forcément d'un intérêt particulier et qu'il y a autant de bonheur qu'il y a d'individus empiriques. Ouais. Il s'agit d'accéder à la dimension transcendantale du sujet, c'est-à-dire au moment où effectivement le sujet dépasse le simple calcul de son intérêt bien compris, c'est l'impératif catégorique.
Voilà. Et alors, la question qu'il faut se poser, donc on a énoncé les conditions de possibilité on a commencé d'énoncer les conditions de possibilité de la conduite désintéressée. Et alors, ici, il faut rencontrer vraiment la question que nous posions dans l'introduction, à savoir, mais si le mobile de nos actions est pur, s'il est purement formel, comme le dit Kant pour élucider la notion de morale, comment est-ce que nous allons nous mettre à agir ? Puisque justement, puisque la morale, la loi morale se formule à nous sous la forme du devoir, nous sommes des êtres finis, c'est-à-dire des êtres sensibles, par conséquent, nous avons besoin d'un mobile sensible pour nous mettre à agir. Et la solution que propose Kant est celle du respect. C'est-à-dire le respect, un sentiment dont il dit que ce n'est pas n'importe quel sentiment, ce n'est pas un sentiment confus comme sont les autres sentiments, mais c'est un sentiment qui est spontanément produit à la vue, au spectacle de la loi morale. Et cela voudrait dire alors que nous serions en quelque sorte invités à des actions morales parce que nous assistons, nous reconnaissons la grandeur d'une action morale lorsque nous sommes placés devant elle.
En somme, de même que le vent incline les roseaux, Gandhi suscite par l'exemple, le bel exemple de sa vie, des comportements identiques.
C'est ça. Et donc on pourrait en quelque sorte prouver la possibilité d'une action désintéressée, non pas par le mobile subjectif de l'action, qui est hors d'atteinte de notre connaissance, mais par l'effet produit par l'action sur les spectateurs, de telle sorte qu'on pourrait trouver dans le respect, dans l'intérêt que les spectateurs prennent aux actions désintéressées, et par exemple dans l'intérêt que nous prenons à Charlot, s'occupant de cette jeune aveugle, nous pourrions trouver la preuve de notre intérêt au désintéressement.
Alors, si on prend un exemple kantien, juste pour rester encore un instant sur cette première partie, est-ce que par exemple l'exemple de l'épicier, l'exemple fameux de l'épicier chez qui vous oubliez votre portefeuille, vous allez acheter 3 légumes, vous oubliez votre portefeuille, le lendemain vous y retournez, l'épicier vous rend votre portefeuille. Le mobile véritable de son action nous échappe. Nul ne sait s'il vous rend votre portefeuille parce qu'il fait le calcul selon lequel, en vous rendant votre portefeuille, il vous fidélise, comme on dit, de sorte qu'il n'y a plus d'intérêt pour lui à vous voir revenir devant son étal plutôt qu'à garder les 3 euros que vous aviez dans le portefeuille. On peut aussi considérer que s'il rend le portefeuille, c'est tout simplement parce qu'il faut le rendre, parce qu'il n'est pas à lui et qu'il faut le rendre et qu'aucune autre considération que celle-là n'entre en jeu. En revanche, du point de vue des effets, le fait que quelqu'un qui n'est pas obligé de le faire rende votre portefeuille peut avoir des effets vertueux sur moi-même.
C'est ça. Je veux essayer de me montrer digne de son acte.
Alors, comment on passe à la seconde partie ? Eh bien, où est le problème, si j'ose dire ?
D'une certaine façon, il n'y en a plus. Enfin, je veux dire, la construction d'une dissertation suppose que, enfin, on puisse s'arrêter à la fin de chaque partie. À la fin de chaque partie, on a répondu à la question. On pourrait s'en aller. Enfin, voilà. Bon, évidemment, on n'aurait pas tout à fait répondu puisque
ce serait tout à fait désintéressé de la part d'un candidat bachelier de s'en aller à la fin de sa première partie.
Ça ne manquerait pas d'allure.
Oui.
On a répondu. On a trouvé un intérêt désintéressé sous la forme du respect. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ici n'est évidemment pas suffisant. C'est-à-dire que il faut se poser la question de savoir si ce que nous respectons, c'est vraiment la loi morale. Je veux dire, il y a dans le respect quelque chose qui se porte bien davantage sur le caractère héroïque de l'action plutôt que sur son caractère moral. Pour reprendre l'exemple de Charlot, nous ne respectons pas Charlot. Nous pouvons reconnaître le caractère désintéressé de ce qu'il fait, mais il nous fait pleurer, on pleure beaucoup pendant les Lumières de la Ville, surtout à la fin, mais nous n'éprouvons aucun respect. En revanche, nous éprouvons du respect pour des actions qui ont une forme de grandeur héroïque, qui sont sans doute morales, qui supposent un usage de la volonté, qui doivent nous faire nous demander si le respect ne se porte pas davantage sur, finalement, ce que Kant appellerait la matière du mobile et non pas sa forme.
En somme, c'est la différence qu'il y a entre le fait de dire « je respecte quelqu'un » ou bien, quand on assiste à une action héroïque, « respect ».
Oui.
C'est à peu près ça, finalement, hein, quand on dit « ah, respect ». Respect parce qu'on admire l'héroïsme de la personne, quelle que soit la personne en question.
Voilà. Et par conséquent, il faut se demander si cette sorte de preuve que nous avons, ou cette sorte d'intérêt désintéressé, est vraiment un intérêt désintéressé. Est-ce qu'on ne peut pas le soupçonner, au contraire, de se porter sur autre chose que cela ?
C'est-à-dire, c'est dire plutôt que le passage d'une partie à l'autre, Nicolas Franck, n'est pas la juxtaposition d'arguments en faveur d'une thèse,
non.
Puis la juxtaposition d'arguments en la défaveur de cette même thèse. Il s'agit de creuser une thèse pour en montrer éventuellement les limites et justifier par la même qu'on infléchisse son propos dans une deuxième partie.
Oui, il faut bien comprendre que la construction d'une dissertation est une construction organique et que on doit progresser. Donc, il est hors de question de juxtaposer des parties en disant oui, non, et puis peut-être dans une éventuelle ou une sorte de compromis habile ou pas de troisième partie d'ailleurs.
Thèse, antithèse, foutaise, c'est Sartre qui disait ça.
Oui, enfin bon, il a passé sa vie à écrire sous la forme de thèse, enfin une partie de sa vie à faire des dissertations de Cagneux.
Mais enfin, c'est une façon pour lui de se moquer de lui-même d'ailleurs, probablement. Mais, alors donc allons-y dans la deuxième partie. Justement.
Et alors, donc la deuxième partie doit partir de ce scepticisme que l'on peut avoir à l'égard, qui est un scepticisme d'ailleurs dont Kant fait état lui-même, à l'égard des mobiles réels de l'action. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose finalement de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus clair, à considérer qu'il n'y a pas de grandeur et il n'y a pas d'héroïsme, même dans l'action du commerçant, ce qui est une forme de grandeur, pourrait-on croire, dans l'action du commerçant qui rend le portefeuille, mais simplement dire que c'est son intérêt, bien entendu. Il y aurait là ce que Tocqueville appelle une vertu démocratique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de clair et de rassurant à se dire que la façon que l'on a d'agir est tout entièrement explicable par un calcul d'intérêt assez simple.
Et en logique libérale, le calcul de son intérêt particulier contribue à l'harmonie générale ou à la vertu publique, disons.
Notamment, dit Tocqueville, parce que l'intérêt, bien entendu, suppose que l'on soit capable, justement, de limiter les débordements et de tenir compte aussi de l'intérêt des autres, puisque nous aurons besoin. Le calcul de ce commerçant qui rend le portefeuille est évidemment ici...
C'est tout l'intérêt de Tocqueville, d'ailleurs, qui, contre Rousseau, pense la possibilité démocratique sans la faire reposer sur la vertu de l'homme, qui accepte ce que l'homme a de mesquin et qui pourtant conçoit la démocratie, alors que Rousseau la faisait reposer sur l'aptitude humaine à se vouer continuellement à la chose publique.
Oui, et en même temps, mais c'est ce qu'on verra à la fin de cette deuxième partie, il y a tout un jeu de l'amour-propre qu'utilise aussi Rousseau, qui d'une certaine façon, peut venir contredire ce bel optimisme de Tocqueville, à beaucoup d'égards.
Bon. C'est intéressant parce que l'optimisme politique de Tocqueville va avec un pessimisme anthropologique. Les humains sont médiocres, mais la démocratie est possible.
Et Rousseau explique, mais on va voir cela bientôt, à la fin de la partie, donc Rousseau explique que les hommes se méprisent eux-mêmes, se jugent médiocres, alors qu'ils ne le sont pas.
Alors allons-y.
Quand il se croit intéressé. Alors, le point de départ, je pense, de cette partie peut être donc ce soupçon assez simple, je crois, que tout le monde peut avoir. Et alors, on pourrait très bien reprendre ce soupçon, pardon, que les actions en apparence désintéressées sont en fait intéressées. Et il est possible de reprendre les exemples de la première partie pour montrer que là où nous croyons voir de l'intérêt, du désintéressement, il n'y a que la satisfaction d'un désir intéressé. Ou bien d'obtenir quelque chose par le moyen de l'apparence du désintéressement, ou bien de se satisfaire son moi, même en prenant l'apparence du sacrifice.
Ça veut dire que les parties se soutiennent tellement dans une dissertation que le même exemple peut être employé deux fois.
Oui.
Et ce qui prouve d'ailleurs non pas qu'on se répète, mais au contraire qu'on creuse un sujet.
On approfondit, voilà, c'est ça. Donc nous étions dupes des apparences dans la deuxième partie, nous sommes un peu moins naïfs parce que nous avons davantage réfléchi dans la deuxième, et par conséquent, nous découvrons des choses qui, au premier abord, ne se voyaient pas. Et donc ici, on peut utiliser des maximes de la Rochefoucauld, par exemple, dont tout le travail a consisté à démasquer l'intérêt sous le désintéressement. Et par exemple, la Rochefoucauld qui dit que traite pas de cette question en particulier, mais que l'action du bon samaritain est une action qui vise à se donner une forme de supériorité sur son ennemi et par conséquent à prendre de l'ascendant sur lui et de sorte à en ressortir grandi à ses propres yeux et sans doute aux yeux du bon samaritain.
Nietzsche lui-même, qui était grand lecteur des moralistes français, ne dit pas autre chose quand il soupçonne la charité d'intéressement, c'est évidemment ce qui est en jeu.
Et donc, la Rochefoucauld dit, je cite, « L'intérêt parle toutes les langues et joue toutes sortes de personnages, même celui du désintéressé. » Donc, voilà. Et on peut alors ici reprendre Charlot en disant ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, il est amoureux. Enfin, et puis, il n'existe pas. Enfin, c'est un vagabond, sa vie n'a pas de sens, il est expulsé de partout, son corps est en trop en permanence dans tout le film. Là, il trouve quelqu'un qui ne voit pas son corps, il trouve quelqu'un qui lui prête attention. Il existe enfin. Et donc, on pourrait se dire que nous sommes tous dans cette situation-là, qui est la situation de Valmont dans Les Liaisons dangereuses. Je cite Valmont et Les Liaisons dangereuses, ce programme de Terminal L cette année en lettres.
Ça devrait toujours être au programme de Terminal L en lettres.
Beaucoup de choses devraient toujours être au programme.
En particulier voilà. Celle-là, allez-y.
Et donc Valmont qui veut séduire une femme, la présidente de Tourvel. Et c'est une femme qui est très croyante, qui fait beaucoup la charité, enfin, qui ne se laissera pas facilement séduire. Il se sait espionné par elle, puisqu'elle veut savoir qui est cet homme qui lui tourne autour. Et il se prend ses renseignements pour, dans un village, trouver des gens qui sont des nécessiteux. Et il organise une sorte de cérémonie où il va les aider à payer leur impôt, la taille, et les sortir de la misère en ayant bien pris soin auparavant de vérifier qu'il n'y avait aucune femme dans la maison, ou jeune fille, qui pourrait le faire suspecter d'être intéressé par autre chose que par une pure bonté. Il donne cet argent, tout le monde pleure, on le remercie beaucoup, et à la fin il dit les gens vertueux n'ont pas besoin d'être récompensés puisque faire la vertu ça fait du bien. Et donc voilà, il prend un réel plaisir à faire cela, il en éprouve. Bon. Et on pourrait se dire, nous sommes tous, c'est la vérité de toutes nos actions cela. C'est-à-dire que nous n'agissons jamais que parce que nous allons y trouver dans l'action que nous faisons une récompense qui va alors ou bien nous donner du plaisir, si bien que nous ne sommes pas désintéressés, ou bien satisfaire notre amour propre.
Ou bien nous surprendre peut-être par la nature du plaisir que cette action nous donne. En somme, il arrive que Valmont recherchait la Tourvel, voulait plaire à la Tourvel en faisant l'aumône autour de lui, et il est surpris lui-même par l'espèce de joie qui s'empare de lui.
Il est surpris, et ce que vous dites est d'autant plus juste que l'instant d'après, il ajoute quelque chose pour permettre de payer quelque chose de plus à la famille, quelque chose qui n'était pas strictement nécessaire, et le plaisir qu'il en éprouve s'amoindrit. La surprise a disparu, et par conséquent, ça a déjà moins d'intérêt.
Et autre point d'ailleurs sur Valmont, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut séduire la Tourvel pour pouvoir séduire la Merteuil au départ.
Oui.
C'est quand même ça l'histoire, hein, puisque tout oui. pour mémoire,
c'est,
hein,
c'est
Valmont et Merteuil se font une sorte de cour par intermédiaires interposés, et que si Valmont fait la cour à la Tourvel, c'est d'abord parce qu'il veut plaire à Madame de Merteuil, à la marquise de Merteuil. Mais en même temps, Valmont.
Il est pris au piège.
Il est pris au piège, il tombe amoureux.
Oui.
Il tombe effectivement amoureux, de sorte que Valmont est beaucoup plus humain, d'ailleurs, que la Merteuil dans Les Liaisons dangereuses.
Oui, il est beaucoup plus humain. Sa situation est plus facile aussi. Ce n'est pas une femme. Les conditions sociales aussi expliquent beaucoup de son caractère.
Mais donc, on a vu que les vertus se perdaient dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer. Hein. Vous avez cité La Rochefoucauld, Nicolas Franck. Continuons. Une fois qu'on a posé ce scepticisme sur les mobiles réels de l'action, comment on s'en sort ?
Alors, on s'en sort en approfondissant l'analyse. Hein, on ne s'en sort jamais, on s'en sort toujours en creusant. Hein, il ne faut jamais passer à autre chose, il faut toujours continuer, comme Descartes résolu. Et donc, il faut se dire pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça marche comme ça ? Pourquoi est-ce que nous prenons intérêt ? Pourquoi est-ce que nous avons intérêt à cela ? Et la réponse que donne La Rochefoucauld et que développe Pascal, je cite Pascal parce que c'est au programme de Terminal L cette année.
Comme ça devrait toujours être le cas, là aussi,
oui.
Lire en miroir Les Liaisons dangereuses et les pensées de Pascal.
C'est le bonheur. Je ne sais pas s'il pense tout cela, mais c'est le bonheur. L'intérêt, donc, est compris comme une satisfaction d'amour-propre. Alors, l'amour-propre, c'est l'amour, un amour indirect que l'on a pour soi. Pascal dit que nous n'avons d'intérêt et d'amour que pour nous, bien sûr, mais que nous nous voyons plein de défauts et que nous ne supportons pas ces défauts et surtout nous n'avons pas envie de les corriger, cela nous demanderait trop de peine. Et par conséquent, plutôt que de les détruire, plutôt que de travailler donc à se rendre meilleur, et peut-être désintéressé d'ailleurs, plutôt que de les détruire, nous faisons en sorte, dit-il, détruire la connaissance que nous en avons. Bon, ça, c'est pas très difficile, mais aussi de détruire la connaissance que les autres en ont, ce qui aide d'ailleurs à ne détruire la connaissance que nous en avons. Et par conséquent, l'amour propre, c'est un amour que l'on a pour soi-même, mais qui fait le détour par le regard des autres. Et par conséquent, c'est ce que l'on appelle au XVIIe siècle l'amour de sa gloire, ou bien l'honneur, bref, des choses que on connaît assez bien.
Et il n'y a là aucun désintéressement.
Et il n'y a là absolument aucun désintéressement. Il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir. Hein, puisque nous ne pouvons pas agir autrement que conduit par notre amour-propre.
Si on sort du cadre moral, juste un instant, Nicolas Franck, oui. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'après tout, c'est d'actualité, et que l'actualité n'est pas malvenue dans une dissertation.
Du tout.
Si on sort du prisme moral, pour en revenir à une question de rentabilité, par exemple, on nous rebat les oreilles en ce moment avec la question de la moralisation du capitalisme. Grande question, le capitalisme est-il moral ? C'est la question du jour, c'est la question de l'année, probablement d'ailleurs la question de la décennie. Bien souvent, des chefs d'entreprise disent, la main sur le cœur, qu'ils agissent moralement, et qu'au nom de la morale, en vertu de la morale. On pourrait aussi, là, faire la critique d'une telle position, ou d'une telle pétition de principe, ou d'une telle profession de foi, dans la mesure où le capitalisme ne se moralise, entre guillemets, que parce qu'il y trouve justement son intérêt et que dans le climat qui est celui d'une crise, un patron a tout intérêt justement à se donner l'onction morale.
Bon, mais si, dès qu'on sort de la question morale, la question économique, on pourrait prendre aussi la question politique, on s'en fiche du désintéressement. Ce que je veux dire, c'est que attendre d'un chef d'entreprise ou d'un homme politique, c'est très différent, mais sur ce point, c'est la même chose, attendre d'eux pour que l'action qu'ils entreprennent soit effective, attendent d'eux des bonnes intentions et du désintéressement, c'est quelque chose qui relève d'une forme de désir de servitude. Enfin, je veux dire, on désire être trompé, puisque d'attendre à la vertu signifie qu'on n'aura pas d'homme d'action. Or, il faut agir. Voilà. Donc, ce qu'il faut instituer, et là, Tocqueville, alors, serait utile, mais Rousseau aussi, sur ce point, je crois qu'il serait tout à fait d'accord, ce sont des institutions que Rousseau appellerait républicaine, démocratique pour Tocqueville. Mais ce sont des institutions qui permettent donc de n'avoir pas à attendre, une sorte de mécanique institutionnelle qui permet de ne pas avoir à attendre des hommes qu'ils soient vertueux pour qu'une action publique juste soit possible.
En même temps, Nicolas Franck, pour rester un instant sur ce sujet, les grands hommes d'État, sont ceux qui ont su à un moment sacrifier leur intérêt. Helmut Kohl a su sacrifier son intérêt au moment de la réunification en établissant la parité des marques et ce qui
a... Écoutez, c'est pas son intérêt, enfin.
C'était l'intérêt de son camp, en l'occurrence. Il y avait un intérêt supérieur aussi, en tout cas. Quand le général de Gaulle est parti à Londres, ou quand, exemple contemporain, François Mitterrand, contre l'avis de la majorité de la population, abolit la peine de mort. L'abolition de la peine de mort relève malgré tout.
Alors on pourrait dire le vrai désintéressement ici, ce serait l'annonce qu'il a faite avant son élection qu'il allait l'abolir contre, voilà, parce que après l'élection c'était pas difficile. Bon, il avait 5 ans devant lui. 5 ans, je pensais à la majorité.
Oui, la majorité présidentielle, oui, bien sûr.
Législative, enfin.
Tout à fait.
Le goal désintéressement. On peut dire aussi que, enfin, je suis la Rochefoucauld ou Pascal, je dis, écoutez, non, enfin, c'est un calcul habile, à savoir, les gens ne voulaient pas l'abolition de la peine de mort, mais en même temps, il y a une forme de grandeur à paraître désintéressé, et par conséquent, il tablait aussi là-dessus. Je vous prends à contre-pied, donc je suis un homme d'État.
Mais alors comment, on en revient toujours à cette question, hein, comment surmonter la... le généalogiste malin, La Rochefoucauld, Nietzsche, qui ira chercher sous les actions les plus officiellement vertueuses des mobiles qui, eux, ne le sont pas.
Eh bien, je crois, en allant voir du côté de Rousseau, et d'une analyse très étonnante, très inattendue, parce qu'elle rétablit en quelque sorte l'amour-propre, contre lequel Rousseau... a des paroles très sévères dans le second discours, par exemple, mais, enfin, notamment, mais dans les fragments, des fragments politiques dans les œuvres de Rousseau. Et Rousseau se pose la question suivante, qu'est-ce que c'est que chercher la richesse? Qu'est-ce que c'est qu'être intéressé? Que fait celui qui cherche son intérêt? Et Rousseau dit, il ne cherche pas son intérêt. Donc, d'une certaine façon, Rousseau dit, il n'y a pas de conduite intéressée. La conduite intéressée n'existe pas. Bon, et quelle preuve donne-t-il de cela? Eh bien, le fait que ceux qui sont les plus intéressés, ce sont ceux qui cherchent à s'enrichir. Bon, or, ceux qui cherchent à s'enrichir se donnent une peine tout à fait disproportionnée par rapport aux jouissances qu'ils en éprouvent. D'abord parce que lorsqu'ils cherchent toujours à avoir davantage d'argent que ce dont ils ont besoin et ce dont ils pourront jamais jouir, d'une part, et d'autre part parce que ceux-là même qui sont les plus riches ne savent pas jouir de leur bien. Rousseau parle du luxe de volupté qui suppose que l'on soit capable de faire entre les choses des distinctions, qu'on a un esprit subtil, qu'on soit capable de faire des distinctions entre les goûts. Et la majorité des riches donc ne savent pas faire. Et donc ils se donnent une peine, parce que avoir de l'argent c'est beaucoup de soucis, ils se donnent une peine, ils offrent au coup du sort une surface ou une exposition qui est très importante, telle qu'il faut chercher dans leur action un autre motif que l'intérêt.
Mais parce que c'est ce que j'allais vous dire, Nicolas Franck, le fait qu'il ne soit pas dans mon intérêt de passer ma vie à faire le calcul de mon intérêt, en somme de perdre ma vie à vouloir la gagner, hein, le fait que ça ne soit pas là, mon intérêt, ne prouve pas que la quête de cela relève d'une façon ou d'une autre du désintéressement. Au contraire, même.
Alors, ça relève de l'amour des distinctions, dit Rousseau. Ça relève de l'amour des distinctions, qui n'est pas chose désintéressée, nous sommes d'accord, mais dont Rousseau dit ce n'est pas de l'intérêt. Et en effet, La Rochefoucauld ne cesse de répéter qu'il y a une différence entre l'intérêt matériel et l'intérêt de gloire, entre l'amour des biens et puis l'amour propre. Et qu'on voit bien cette différence à l'œuvre, enfin, si vous me permettez une analogie triviale, dans le fait que quand on dresse une otarie, on lui jette des harengs, et quand on élève un enfant, on lui donne des bons points. C'est-à-dire que il y a le bon point n'a aucun intérêt. Hein, c'est un vieux papier de buvard sale. Enfin, voilà. Et pourtant, les enfants sont très heureux d'avoir des bons points, comme les otaries sont heureuses d'avoir des bons. Mais comme non, justement.
Je vous laisse la paternité de cette comparaison. Allez-y, Nicolas Franck.
Une analogie. Les bons points sont une récompense symbolique. C'est-à-dire que ce n'est pas une récompense à proprement parler, c'est le signe d'une récompense. Et l'amour des distinctions, c'est donc un amour. C'est un intérêt, mais il y a un intérêt qui est lié à une représentation, qui n'est pas lié à une chose réelle, mais à une représentation. Et cela veut dire donc que ce qui nous motive, c'est la représentation. Et de toute manière, l'amour-propre le signifie suffisamment. Ce qui m'intéresse, c'est le regard que les autres portent sur moi. Une représentation, ce n'est pas la même chose qu'une chose, puisque vous voyez bien, on se meut immédiatement dans un monde symbolique, si bien qu'il va être grâce à cela possible de trouver, ce que nous cherchons, un intérêt désintéressé, pourvu que nous changions l'objet de nos représentations.
Donc c'est en passant par le biais de l'amour-propre,
oui,
qu'on en vient à un intérêt désintéressé.
Et d'ailleurs, un amour-propre, quelque chose qui serait comme un amour-propre désintéressé. C'est-à-dire un amour-propre qui ne se fixerait pas sur des biens matériels, et un amour-propre qui ne se fixerait pas non plus sur de fausses valeurs, une fausse et vaine gloire, comme par exemple on trouve chez les héros de Corneille.
Quand, au début du traité de la réforme de l'entendement, Nicolas Franck Spinoza se dit voilà, j'ai résolu de me demander à cet instant de ma vie si il n'y avait pas plus intéressant finalement que le seul intérêt, l'honneur, la lubricité, la gloire, dit-il, s'il n'y avait pas un souverain bien, un bien véritable, c'est-à-dire un bien dont la nature est certaine et son obtention difficile, alors que la richesse, l'honneur, la gloire sont des biens dont la nature de bien est incertaine, mais dont l'obtention est facile. Il dit, bon, il vaut mieux chercher un souverain bien. Et pourtant, Spinoza dit, dans le traité de la réforme de l'entendement, j'avais beau percevoir tout cela très clairement, je ne pouvais pas pour autant renoncer à l'honneur, à la lubricité et à la gloire. Est-ce qu'on est là dans ce qu'on pourrait appeler une conduite finalement désintéressée ?
La conduite désintéressée, c'est le travail que l'on va faire, c'est la prise de conscience que ces biens ne sont que des biens inutiles, incertains dans leur nature, incertains dans leur obtention, dit Spinoza en effet. Ce sont des biens qui sont inutiles, ce sont des biens qui nous portent préjudice à beaucoup d'égards, ce sont des biens contradictoires, puisqu'ils portent en eux leur contraire, puisque nous sommes bien souvent beaucoup plus malheureux de leur perte que nous ne sommes heureux de leur possession. Donc c'est la prise de conscience que ces biens sont finis qui nous permet alors, en effet, ce travail de changement de nos représentations.
Alors malheureux de la perte et heureux de la possession, on renvoie ici à Sénèque, traité du bonheur, qui parle de l'argent. Sénèque dit « j'ai de l'argent, mais contrairement à vous qui me reprochez d'en avoir, c'est vous qui aimez l'argent, moi je m'en fiche ». Ce qui est plus facile à dire d'ailleurs quand on a de l'argent. Mais ça, c'est un autre débat. Nicolas Franck, alors on arrive au terme de cette émission. Il faut bientôt conclure, élève Franck. Allons-y.
Oui, maître Antoven. Donc je serai bref pour la troisième partie. D'une certaine façon, il y a une forme de double aporie de notre dissertation. Nous avons montré dans la première partie qu'une conduite désintéressée, contrairement à ce que l'on croit, finalement n'est pas possible, la critique qu'on a faite du respect. Nous venons de montrer avec la critique que nous avons faite de celui qui est intéressé, qu'une conduite intéressée n'est pas possible non plus. Et donc, il faudrait se poser la question, un petit peu peut-être d'ailleurs à la manière de Kant, de savoir si la façon dont nous avons opéré cette recherche n'est pas mauvaise. Je veux dire, est-ce que nous n'avons pas le tort de chercher à savoir là où il n'y a rien à savoir ? Est-ce que notre raison ne serait pas ici impuissante ? Et est-ce que d'une certaine façon, nous n'aurions pas tort de chercher dans l'origine ou dans la fondation de la conduite quelque chose qui permettrait de juger du désintéressement ? Et on pourrait trouver, alors, dans ce que Descartes appelle la générosité, quelque chose qui permettrait d'apporter à cela une solution. Je m'explique. Si nous partons du changement de nos représentations, si nous nous disons pour qu'un intérêt désintéressé soit possible, il faut que nous transformions la représentation que nous nous faisons de nos actions, ou plus exactement, la représentation que nous nous faisons de l'intérêt que nous accordons aux choses, alors cela suppose, ce que vous disiez il y a un instant avec Spinoza, une prise de conscience que ce à quoi nous accordons de l'importance n'en a pas. Et c'est cette prise de conscience que Descartes appelle, cette prise de conscience qui est le début de ce que Descartes appelle la générosité, à savoir la vertu qui va permettre de mener des actions désintéressées, parce que nous savons que la seule chose qui vaille, c'est notre libre arbitre, ou plus précisément, l'usage que l'on en fait.
On renvoie ici l'auditeur, et c'est l'ultime référence dissertation, à l'article 153 du traité des passions de l'âme, en quoi consiste la générosité. Vous me disiez hors micro, Nicolas Franck, que c'était frustrant que ce soit déjà fini. C'est la règle, c'est le genre, hein, 50 minutes, c'est moins que 4 heures. On est arrivé néanmoins au terme de la troisième partie et de la question de savoir si une conduite désintéressée était possible. Je renvoie d'ailleurs tous nos auditeurs à notre site internet pour une liste, non pas exhaustive, mais enfin indicative et fournie des références bibliographiques sur tous les sujets que nous traitons cette semaine. Un grand merci, Nicolas Franck, d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Je rappelle que vous enseignez en terminale au lycée de la Folie Saint-James à Neuilly-sur-Seine et que vous êtes venu accompagné d'une vingtaine de vos élèves qui se sont tenus sages comme des images. Ils auront tous un billet de récompense. Je rappelle également que cette semaine, les Nouveaux Chemins de la Connaissance est organisé en partenariat étroit avec les hors-séries, avec le hors-série de Philosophie Magazine consacré au bac philo, le guide de survie du bac philo sous la houlette du camarade Charles Pépin. Suite demain de cette semaine fastidieuse, laborieuse et dissertatoire en compagnie de Philippe Danino qui enseigne en terminale au lycée Buffon à Paris et qui viendra accompagner lui aussi d'une quinzaine de ses élèves pour traiter le sujet suivant « Peut-on penser sans préjugés ?» À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher, à la réalisation Cédric Ossir et puis évidemment au travail de fond Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa et sur quelques mesures de Mozart sur France Culture. Il est 17h50 et on retrouve Albert Jacquard.